En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Conçu cet exposé en deux temps un peu inégaux, le premier pour rappeler l'histoire des sikhs et dire quelques mots de leur religion, et le deuxième pour aborder de façon plus directe le sujet à propos de certains épisodes particuliers que je signalerai au passage dans le premier temps de ma présentation. C'est en août 1958, après que la révolte des Sipayis eut été matée au cours d'affrontements militaires d'une grande violence, que le Parlement du Royaume-Uni adopta l'India Act, qui transférait tous les pouvoirs de la Compagnie des Indes orientales à la couronne britannique. C'est au lendemain de cette très rude épreuve qu'ethnographes coloniaux et responsables militaires commencèrent à identifier les Sikhs du Punjab et les Gurkhas du Népal comme les plus féroces et les plus viriles des soldats indiens, comme formant ce que l'on appela dès lors des races martiales. Ces hommes étaient censés posséder une disposition à la fois biologique et culturelle à manifester toutes les qualités nécessaires à la pratique de l'art de la guerre. Pour cette raison, Sikhs et Gurkhas firent l'objet d'un recrutement préférentiel et d'un traitement de choix dans les régiments indiens, et l'on fit d'eux des icônes pour le recrutement dans les armées de l'Inde britannique. Et pourtant, si l'on se réfère à l'origine de leur histoire, qui commence au début du XVIe siècle, rien ne prédisposait les Sikhs à être un jour identifiés comme l'une des races martiales de l'Inde. En effet, les Sikhs sont alors de paisibles dévots, appartenant à l'un des divers courants de dévotion hindoue qui fleurissent en Inde du Nord à l'époque. Que s'est-il donc passé? Pourquoi au sein de cette paisible communauté, un noyau militant s'est-il développé? À la faveur de quel conflit? Comment les Sikhs se sont-ils trouvés engagés dans des guerres et ont-ils fini par fonder un royaume au Punjab avant de devenir le fer de lance de l'armée britannique des Indes, puis celui de l'armée indienne? Et comment ont-ils eux-mêmes, au fil de leur histoire, perçu la guerre et leur rapport à cette pratique? Tout d'abord, qu'est-ce que le sikhisme? Le XVe siècle en Inde du Nord est celui des royaumes rivaux, souvent en guerre entre eux, comme on vient de le rappeler, né de la dislocation du sultanat de Delhi après le raid dévastateur du conquérant mongol Tamerlan sur la capitale indienne en 1398. Ces royaumes durent jusqu'à ce que le mogol Babur entreprennent la conquête de l'Hindoustan en 1523, et la conclut en 1526, ouvrant la voie d'un nouvel âge, celui de l'Empire moghol. Dans ce territoire morcelé et en proie au conflit, se propage, dans le sillage de saints poètes, un mouvement populaire de dévotion religieuse qui fait fi de toute autorité et de toute orthodoxie, et dont celui à qui les Sikhs font remonter l'origine de leur religion, Nanak, dont les dates sont 1469-1539, est l'une des grandes figures. Le sikhisme est né et s'est développé autour de ce premier maître et de ses 9 successeurs au XVIe et XVIIe siècle, dans le contexte d'un Punjab longtemps resté à l'écart du brahmanisme lettré, mais marqué par la présence de sectes dévotionnelles vishnouites et d'ascètes shivaïtes, ainsi que par l'islam, surtout soufi. Il a rapidement évolué comme une religion séparée dont il a tous les traits distinctifs, un fondateur, des écritures, ici le livre sacré, l'Adi Granth, des lieux de culte, un calendrier religieux et des rites sacramentaux. Nanak prêche une voie de salut, fondée sur la foi en un Dieu unique, créateur et inconnaissable, extérieur à l'homme et présent en lui. Touché par la grâce, l'homme peut parvenir à la délivrance en écoutant en son cœur la voix de Dieu, appelé gourou justement, maître. Pour se conformer à cet ordre que murmure cette voix, l'homme doit, dans un parfait amour de Dieu, purifier son essence spirituelle par une discipline faite de remémoration et de répétition du nom divin, et il doit pratiquer le service désintéressé d'autrui et de la communauté, qu'on appelle pente ou chemin ou voie. Autour de Nanak, en effet, s'est rassemblée une paisible communauté de dévots, venus de divers horizons religieux et qui font leur la voie, pente, du maître, en matière de régénération spirituelle et d'accès au divin. Les pratiques de ce premier Nanak pente, voie de Nanak, sont très simples. Bain matinal, répétition du nom divin et assemblée dans les dharamshala, lieu où l'on chante ensemble des hymnes. Elles sont compatibles avec le rythme et les activités de la vie villageoise au Punjab. Les frontières de cette communauté sont assurément floues. Les frontières de cette communauté, donc, sont assurément floues. Et on ne sait pas très bien quand une personne commence à être sikh et quand elle finit d'être hindoue. Et si un noyau dur s'en tient strictement aux enseignements de Nanak, beaucoup continuent à fréquenter le temple et d'autres à aller à la mosquée. Enfin, pour les membres du Panth, et conformément à l'enseignement de leur gourou, la caste n'a aucune valeur en matière d'accès au salut et ne doit pas prévenir la commensalité. Par contre, elle reste pour les fidèles comme pour les gourous une convention en matière de mariage, et par là, les liens des sikhs avec la grande communauté hindoue ont été préservés jusqu'à nos jours. Rien dans ses origines, on le voit, ne semble prédisposer les sikhs à entrer dans des conflits guerriers, à sacraliser un jour la pratique militaire, ni à devenir un vivier pour l'élite de l'armée britannique des Indes. Mais trois facteurs changent cette donne initiale au cours de l'histoire. Premièrement, un changement sociologique dans la composition du Panth, qui a, deuxièmement, pour conséquence, des affrontements armés avec le pouvoir moghol et la militarisation d'une fraction des sikhs. Et troisièmement, la colonisation, quand les Britanniques se rendent par la force de leurs armées, maîtres de l'Inde, livrent contre les sikhs qui ont établi un royaume au Punjab une guerre de conquête, et une fois le Punjab pacifié, les enrôlent massivement dans leurs armées. D'une paisible communauté de dévots à un peuple guerroyeur et conquérant aperçu de l'histoire des sikhs. J'ai donné ce tableau pour qu'on voit le parallélisme chronologique entre les gourous des sikhs et les grands moghols. Je commencerai par rappeler à grands traits l'histoire des sikhs en soulignant au passage les moments clés sur lesquels je reviendrai par la suite. L'histoire des sikhs peut être périodisée en quatre grandes phases que je vais résumer. La première, celle des 10 gourous qui se succèdent à la tête des sikhs au XVIe, XVIIe siècle, correspond chronologiquement à l'époque des grands moghols. Nanak livre un témoignage direct sur la conquête du maître turc de Kaboul, Babur, j'y reviendrai, qui installa les moghols en Inde, et Gobind Singh, le 10e et dernier gourou, en bas de cette liste, juste avant le roi du Punjab, donc, le 10e et dernier gourou décède à peine un an après le dernier grand moghol, Aurangzeb. Entre-temps, le Nanak Panth s'est organisé et doté d'un livre sacré, l'Adi Granth, compilé en 1604 par Arjan, le 5e gourou, et à partir des hymnes de ses prédécesseurs, de ses propres compositions et de celles des saints poètes hindous et soufis de l'époque, un livre composite, donc. Interviennent ensuite des changements qui vont faire des sikhs par la pratique guerrière un groupe à part dans l'univers des courants hindous de dévotion aimante à un dieu unique. En effet, pour résister aux pressions économiques et politiques de l'Empire moghol, une partie des sikhs se militarise sous la houlette du 5e gourou Har Gobind. C'est là le deuxième point que j'aborderai à propos du rapport des sikhs à la guerre. Quand, en 1699, Gobind, le 10e et dernier gourou, choisit de s'établir dans la région plus sûre du piémont himalayen, à Anandpur, ses sikhs en armes et lui doivent se défendre contre les rajas hindous des collines et contre le pouvoir moghol qui cherche à réduire ou à vassaliser les principautés hindous des marges de son empire. C'est dans ce contexte que Gobind, à qui est attribuée la composition d'un deuxième livre sacré, le Dasam Granth ou livre du 10e gourou, crée parmi les sikhs un ordre militant, le Ralsa, les purs. De cela, je reparlerai. Gobind établit aussi qu'après sa mort, l'autorité du gourou résidera conjointement dans les écritures et la communauté rassemblée. C'est la doctrine dite du gourou Panth et du gourou Granth, Granth voulant dire le livre. La deuxième phase de l'histoire des sikhs va des soulèvements paysans au Punjab contre les moghols sous un chef de guerre nommé Banda Bahadur, qui meurt exécuté en 1716, jusqu'au royaume sikh du Punjab, qui dure de 1799 à 1849. En grand danger après l'assassinat de Gobind, puis l'exécution de Banda, les sikhs sortent finalement vainqueurs des affrontements où, alors que l'empire moghol se délite, ils sont en compétition avec moghols et afghans pour le contrôle du Punjab. Ils fondent dans la région un grand royaume dont le premier Maharaja est Ranjit Singh et qui dure une cinquantaine d'années avant son annexion par les Britanniques en 1849. Au terme de deux guerres, l'une en 1846, l'autre en 1849. Cette période aussi retiendra mon attention. La troisième phase est celle de la domination coloniale britannique. Si les sikhs s'étaient militarisés sous les moghols et avaient finalement triomphé d'eux, ils perdent les deux guerres qui les opposent aux colonisateurs britanniques. Mais sous la Pax Britannica, les Sikhs deviennent et restent jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale loyaux envers les Britanniques. C'est la politique très dure et sans concession des autorités britanniques au lendemain de la Première Guerre mondiale qui met fin à ce loyalisme. Les Sikhs s'engagent alors massivement dans le mouvement national indien. Des Sikhs du Khalsa, cet ordre guerrier, organisé dans la Kalidal, armée de l'immortel, se lancent en outre, en 1920, dans un mouvement violent pour reprendre le contrôle de leur temple, géré depuis le XVIIIe siècle par des desservants hindous. Je m'arrêterai tout à l'heure sur cet épisode. Les Sikhs en sortent vainqueurs en 1925 et récupèrent la gestion de leur temple. À la fin de la période coloniale, les Sikhs sont pris dans la tourmente de la partition qui voit le Punjab divisé entre l'Inde et le Pakistan au prix de vastes transferts de population accompagnés de massacres à grande échelle. La dernière phase conduit jusqu'à l'époque contemporaine. Sur le plan politique, l'Akalidal, ce mouvement militant qui s'était formé pour la libération des temples, devenu un parti de propriétaires terriens qui manipule une rhétorique religieuse, réussit à obtenir en 1966 un redécoupage du Punjab indien en trois États sur une base officiellement linguistique, mais en réalité religieuse. Dans le nouvel État du Punjab, où les Sikhs sont majoritaires, ils y forment 60% de la population, la révolution verte et les progrès du capitalisme agricole accentuent les inégalités et les fractures sociales. Et à partir de 1973, le fondamentalisme se développe, instrumentalisé tant par la Kalidal que par le pouvoir central, le parti du Congrès dominé alors par Indira Gandhi. Dans les années 1980, un mouvement indépendantiste ultra-minoritaire mais très violent s'organise pour la création d'une théocratie sikh, le Khalistan. Le terrorisme se répand et la crise, qui culmine en 1984 avec l'assaut du lieu le plus sacré pour les Sikhs, le temple d'or d'Amritsar, fondé par leur cinquième gourou et recouvert d'or par le Maharaja Ranjit Singh, ne se résout qu'en 1992. Cette crise est le dernier point sur lequel je reviendrai. Le Punjab est aujourd'hui apaisé. Un Sikh, le général Joginder Jaswant Singh, a été chef des armées indiennes de 2005 à 2007. Et comme nous savons bien, depuis 2004, le premier ministre indien est un Sikh, Manmohan Singh. Les Sikhs et la guerre. Après avoir ainsi succinctement présenté le sikhisme et l'histoire des Sikhs, je reviens maintenant sur les moments que j'ai soulignés, où la guerre a compté tant dans l'évolution de la communauté que dans celle de sa religion, dans la confrontation d'abord avec les Moghols, puis avec les Britanniques. Premier point, interprétation sikh de la conquête de Babur. Les incursions du conquérant moghol Babur, entre 1523 et 1526, en Hindoustan et sa conquête du pays ont fait l'objet de trois interprétations dans le sikhisme. La première se rencontre dans des hymnes de Nanak, contemporains, nous l'avons vu, de Babur. La deuxième de ces interprétations, dans des textes appelés Janam Sakhi, récits de naissance, qui sont des hagiographies de Nanak compilées pour la plupart au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et la troisième, dans la première histoire des Sikhs écrite par un auteur sikh, le Pant Prakash, Lumière de la Voix, achevée par Ratan Singh Bhangu en 1843, mort en 1843, mais qui a achevé son texte en 1841. La miniature que nous voyons ici représente la bataille dans laquelle le conquérant moghol Babur a vaincu le dernier sultan de Delhi, Ibrahim Lodi, et c'est à la suite de cette bataille qu'est né l'Empire moghol. Pour Nanak, cet événement, la bataille de Panipat et la conquête de Babur, illustre le caractère incompréhensible du décret divin, tout en fonctionnant comme un rappel de l'inéluctabilité de la mort et de la nécessité pour l'homme soucieux de son salut de régénérer son esprit avant de quitter le monde, de manière à atteindre la libération du cycle des renaissances. Dans les Janam Sakhi, donc dans les hagiographies de Nanak, la venue de Babur en Hindoustan, comme on appelait alors l'Inde, qui n'avait, comme l'a rappelé M. Chenet, pas de frontières bien définies, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, est consécutive, donc cette venue de Babur est consécutive à une malédiction lancée par Nanak contre les habitants d'une ville qui avaient négligé de les nourrir, ses compagnons et lui. Enfin, le Pant Prakash, cette première grande histoire des Sikhs écrite par un Sikh au milieu du XIXe siècle, donc dans le Pant Prakash, la victoire de Babur à Panipat est présentée comme un châtiment divin attiré par Nanak sur le sultan de Delhi, Ibrahim Lodi, après que ce dernier a humilié de saints hommes, les accusant d'être des charlatans exploiteurs de la crédulité populaire et incapables d'aucun miracle. les débuts de la confrontation avec les Moghols. Nanak et ses quatre premiers successeurs étaient de paisibles contemplatifs, des saints poètes, comme je l'ai rappelé, dont les hymnes occupent une place de choix dans l'Adi Granth, et la première communauté sikh aux frontières religieuses floues n'avait rien d'un groupe militant. La situation commence toutefois à changer dès l'époque du troisième gourou Amar Das. Alors, en effet, des Jats, membres d'une tribu d'éleveurs nomades devenus castes d'agriculteurs sédentaires, rejoignent le Nanak Panth, au sein duquel leur nombre ne cesse de croître. Ils forment aujourd'hui à peu près les deux tiers des sikhs en Inde. Or, ces Jats présentent deux traits sociologiques particuliers. D'une part, ils ont gardé de leur passé d'éleveurs nomades une culture militante et des manières particulières, comme le port de la barbe et des cheveux longs et le port de l'épée. Cheveux longs protégés par un turban, bien sûr. D'autre part, devenus castes dominantes dans de nombreux villages du Punjab et partant ayant droit aux revenus du sol, ils sont soumis à la pression de l'État moghol pour le paiement des taxes et n'hésitent pas à recourir aux armes pour résister aux troupes impériales venant lever l'impôt. C'est parce qu'il apparaît comme leur chef que le cinquième gourou des Sikhs, Arjan, est mis à mort sur ordre du nouvel empereur Jahangir. C'est aussi parce que, lors de la guerre de succession consécutive au décès de l'empereur Akbar en 1605, il a accordé sa bénédiction au futur vaincu, Rusro, le frère du vainqueur, Jahangir, qui lui disputait le trône. En réaction à ces changements et à ces événements, le sixième gourou Hargobind, représenté sur ce chromo de bazar, chevauchant fièrement à la tête de ses troupes, organise militairement une fraction de ses sikhs pour la résistance guerrière contre les Moghols et fait bâtir, en face du principal lieu de culte des sikhs, ce fameux temple d'or, un bâtiment qui est le siège du pouvoir temporel dans lequel il se tient régulièrement. Donc le temple d'or a été construit par son père et lui construit cet Akal Takht, ou trône de l'immortel. La militarisation du Panth a commencé. La création du Ralsa. Sous le dixième gourou des Sikhs, Gobind, l'élite militaire de la communauté s'établit à Anandpur, dans le piémont himalayen, d'accès plus difficile pour les Moghols. Mais dans cette contrée, les Sikhs doivent aussi faire face aux volontés expansionnistes des Rajas hindous, qui se livrent entre eux des guerres de conquête et emmènent contre les Sikhs, non sans que les armées moghols interviennent de temps à autre pour réaffirmer la suzeraineté de l'empereur et chercher à faire payer tribut aux Rajas et aux Sikhs. C'est dans ce contexte que Gobind, le dixième et dernier gourou, qui dans son autobiographie spirituelle se dit envoyé de Dieu sur terre pour rétablir le dharma si besoin par la guerre, crée en 1699 parmi ses Sikhs un ordre armé, le Ralsa, les purs, pour lequel il instaure un code, un rite d'initiation et des symboles distinctifs dont le port de la barbe et des cheveux longs, ainsi que celui de l'épée pour les hommes, traits qui doivent sans doute beaucoup à la culture des Jats que j'évoquais tout à l'heure. On voit ici un chromo de bazar représentant l'épisode un peu compliqué que je ne raconte pas de la création de cet ordre militant. La guerre juste, la guerre pour le dharma, devient dès lors une obligation religieuse pour les initiés. C'est un tournant majeur dans l'histoire des Sikhs. La conquête du Punjab. Le Ralsa, créé pour la guerre, donne toute sa mesure durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Organisé en petites armées autonomes dont les chefs s'assemblent deux fois l'an autour de l'Adi Granth, le livre sacré, le Ralsa guerroie contre Afghans et Moghols alors que l'empire moghol décline et que se crée sur ses marges ce que les historiens appellent des États successeurs. Dans ce contexte, certains chefs sikhs caractérisent comme Dharm Yudh, guerre pour le Dharma, en sanskrit, leurs entreprises militaires contre les Moghols, puis bientôt aussi contre les Afghans, qui présentent leurs propres incursions dans le Punjab comme un djihad. Au XIXe siècle, les réformistes sikhs produiront une lecture de l'histoire des sikhs dans laquelle ils projetteront ce caractère de guerre sainte contre les musulmans sur les affrontements antérieurs et ils construiront en martyrs de la foi les combattants tombés contre hindous et moghols au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. C'est les usages politiques ou religieux du passé. Après la mort de Gobind en 1708, le Ralsa, animé par la mystique de son fondateur dont il manifeste désormais la présence, comme le soulignent les poèmes héroïques composés dans l'entourage des chefs militaires, devient une élite guerrière capable de créer des principautés et, en 1799, un royaume indépendant sous la houlette de Ranjit Singh. On voit ici ce chef de guerre sikh entouré de quelques fidèles. Mais aussitôt établi sur le trône de Lahore, Ranjit Singh s'attache à faire tomber en désuétude la doctrine du gourou Pant et avec elle la mystique guerrière de Gobind. Ses armées, en grande partie composées de mercenaires, combattent désormais sous sa seule autorité et guerroient victorieusement pour agrandir le territoire du royaume jusqu'au Cachemire, au Sindh et aux frontières de l'Afghanistan. Dans ce cadre, l'élite militaire des Sikhs se professionnalise, notamment grâce au recrutement par Ranjit Singh d'anciens officiers de Napoléon pour organiser ses armées et commander certains de ses régiments. On voit ici le général Allard, par exemple, capitaine dans l'armée de Napoléon et qui, à la suite de diverses aventures en Orient, en Turquie, puis en Iran et finalement en Inde, se retrouve général à la tête de plusieurs régiments dans l'armée de Ranjit Singh, dont notamment il organise complètement l'artillerie. Il faut deux guerres difficiles aux Britanniques en 1846 et 1849 pour venir à bout, et encore à la faveur de trahison, des combattants sikhs. Les sikhs à l'époque coloniale. La valeur militaire des soldats sikhs et leur bravoure ont beaucoup frappé les Britanniques. Une fois le Punjab pacifié et désarmé, le pouvoir colonial recrute en masse des sikhs dans ses armées et ne tarde pas à les former en régiments séparés, dotés d'uniformes remarquables et hauts en couleur, comme on le voit sur cette image. On a d'ailleurs pu parler à leur propos, je le redirai tout de suite, de Colonial Sikhs. Alors que se propage dans l'élite intellectuelle des Sikhs, un mouvement de réforme que j'ai déjà évoqué, destiné à préserver le sikhisme d'être réabsorbé dans l'hindouisme, vieux fantasme encore actuel, les Britanniques réintroduisent une dimension religieuse dans la pratique militaire des Sikhs. Afin de mieux attacher ces derniers au service de la couronne, ils rendent obligatoire pour tout Sikh qui rejoint l'armée un rituel d'initiation qui rappelle fortement celui de l'entrée dans le Khalsa et qui exige le port de la barbe et des cheveux longs. Colonial Sikhs. Que ce soit sur les théâtres d'opérations indiens, comme lors de la répression de la révolte des Sipayes en 1857-58, ou sur des théâtres extérieurs, en Asie, en Afrique ou en Europe pendant les deux guerres mondiales, les Sikhs se révèlent, au sein des armées britanniques, des combattants exemplaires. Plus de 83 000 d'entre eux tombent sur les champs de bataille des deux guerres mondiales et plus de 100 000 y sont blessés. Mais la Première Guerre mondiale marque un tournant décisif dans l'histoire des Sikhs comme dans celle de l'Inde. Après la guerre, en effet, loin de manifester sa reconnaissance en accordant une place accrue aux Indiens dans la vie politique de leur pays, le pouvoir colonial établit par la force une législation d'exception. C'est dans ce cadre qu'est perpétré en 1919 à Amritsar, capitale religieuse des Sikhs où se trouve le Temple d'Or, le massacre de centaines de manifestants pacifiques. Les Sikhs s'engagent alors massivement dans le mouvement national indien. Leur mouvement s'accroît encore lorsque les autorités coloniales choisissent de défendre les desservants hindous auxquels les Sikhs veulent reprendre la gestion de leur temple. La protestation des Sikhs prend graduellement un tour violent avec la mise sur pied d'une organisation militaire appelée Akali Dal, dont j'ai déjà parlé, Armée de l'Éternel. Et après plusieurs escarmouches, les Sikhs ont finalement gain de cause en 1925 et un acte leur accorde la gestion de leur temple. On a pu parler à propos de cet épisode de guerre anglo-sikh. Dernier point, dans l'Inde indépendante. Dans l'Inde indépendante, si les Sikhs forment 2% de la population du pays, ils sont un peu plus de 20 millions aujourd'hui, 75% d'entre eux vivant au Punjab, il y a aussi un peu plus de 2 millions de Sikhs dans ce qu'ils appellent leur diaspora planétaire. Donc, dans cette Inde indépendante, où les Sikhs forment 2% de la population, 15% des soldats de l'armée indienne proviennent de leur rang et 20% de ses officiers. Les Sikhs sont au premier rang des combats de l'armée indienne lors des guerres de l'Inde contre le Pakistan en 1947, 1965-66 et 1971, et contre la Chine en 1962. J'ai rappelé aussi qu'un Sikh avait été à la tête des armées indiennes récemment. Sur le plan politique, si l'agitation qui aboutit au redécoupage du Punjab en 1966 a été pacifique, il en va tout autrement du mouvement fondamentaliste des années 1980. Les terroristes qui exigent, autour de leur chef charismatique Jarnail Singh Bhindranwale, la création d'une théocratie sikh indépendante. Voilà Bhindranwale et quelques-uns de ses hommes dans les rues d'Amritsar vers 1984. Donc, les terroristes exigent, autour de ce chef charismatique, la création d'une théocratie sikh indépendante appelée Khalistan et mènent contre l'État indien pendant une douzaine d'années une véritable guérilla qui fait plus de 25 000 morts. Dans cette lutte, les fondamentalistes s'appuient dans leur rhétorique sur le passé des Sikhs. Il se présente comme ceux qui font revivre la gloire du Khalsa à la conquête du Punjab dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Leur guerre est une guerre sainte, et ceux qui tombent au combat sont glorifiés comme des martyrs. Cette guérilla est d'abord réprimée dans le sang, avec en juin 2004 l'assaut de l'armée indienne contre le temple d'or d'Amritsar, où Bhindranwale et ses lieutenants sont tués. Mais tous les Sikhs sont choqués par cet assaut, et en octobre de la même année, le premier ministre Indira Gandhi est assassiné par ses gardes du corps Sikh. Cet assassinat déclenche à New Delhi des pogroms anti-Sikhs qui font 3000 victimes dans cette ville. Il faut ensuite encore 8 années de répression, de pourparlers et de négociations pour que les derniers combattants se rendent en 1992 et que le mouvement s'éteigne. Le rapport des Sikhs à la guerre a donc considérablement évolué au fil du temps. Si la guerre ne joue aucun rôle dans la communauté des disciples des cinq premiers gourous, sauf comme manifestation du décret divin, les évolutions sociologiques dans la composition du Panth et les affrontements qui en résultent avec les Moghols changent la donne et aboutissent à la création du Khalsa par le dixième et dernier gourou Gobind, qui se présente comme envoyé de Dieu pour rétablir le dharma. La guerre devient pour les Sikhs une pratique religieuse. Cette configuration prend fin dans le royaume Sikh du Punjab, né de la victoire des armées du Khalsa contre Afghans et Moghols. La colonisation ouvre une nouvelle phase dans l'histoire militaire des Sikhs. Ces derniers, une fois le Punjab pacifié après la conquête coloniale, sont enrôlés massivement dans l'armée britannique des Indes, dont ils deviennent les meilleurs combattants. Ils le resteront dans l'Inde indépendante. Le destin des Sikhs est ainsi unique en Inde. Au gré des circonstances historiques, une paisible communauté de dévots a développé en son sein une élite guerrière qui a pu fonder un royaume au Punjab, avant de devenir un élément clé d'abord de l'armée britannique des Indes, puis depuis l'indépendance et jusqu'aujourd'hui de l'armée indienne. Merci.
Thank you.